que ça s'est un peu en cours de route, mais c'est bon.
D'accord.
Nous allons commencer tout de suite. La dernière fois, on s'était arrêté sur cette idée qu'il y avait, selon Lacan, donc une béance entre l'écrit et la parole, et que c'était quelque chose sur quoi donc Lacan insistait beaucoup et qui avait beaucoup à voir avec l'inconscient. Et Edith Maclay posait une question la fois dernière et à laquelle elle a bien voulu répondre aujourd'hui. Et donc je te laisse la parole et puis donc on en parlera ensuite.
D'accord. Alors ma question, c'était quel serait l'entre-deux entre la parole et l'écrit. À cette question, Eric Forge nous a indiqué deux mots, le mot passoire et le mot flûte. C'était pas du pipeau,
c'est ce que j'allais dire. Pas du tout.
Je me suis dit que dans le mot passoire, il y avait ce qui me marquait, c'était qu'il y avait une direction. Quand on verse l'eau pour faire un thé, par exemple, ou quand on verse le thé, il y a une direction, c'est de haut en bas. Il y a un passage qui se fait dans le sens de la gravité. Quelque chose tombe et quelque chose reste dans la passoire. Dans la flûte, je n'ai pas eu du tout cette impression-là, mais parce que l'air passe des poumons à la bouche, de la bouche au bec de la flûte, du bec au trou, en produisant des sons qui étaient complètement inexistants dans l'appareil respiratoire de celui qui souffle. Il y a une production sonore avec un effet. Bon, je suis restée là-dessus en me disant, bon, qu'est-ce que c'est cette passoire. Et pendant les colloques du 24 et 25 novembre, les séances de la transmission, Eric Forge finit son intervention en parlant des passoires. Donc là, je me suis dit, je vais avoir un indice un peu plus précis. Et donc, dans sa conférence faite avec la langue, il dit, peut-être la réponse se trouve-t-elle dans la conférence à Genève sur les symptômes. Lacan recourt à la métaphore de la passoire, déjà présente chez Kant, qui tamise le ruissellement de l'eau de la langue, déposant des détritus, des bouts de signifiants auxquels s'amarre le langage, la passoire engendrant des précipités des lettres, des traits unaires dans la langue. Le passage d'une langue à une autre, la passe serait des variations de la passoire de la lettre qui, par ses trous, laisse passer le 1, les traits unaires incarnés dans la langue, et qui reste indécis entre phonèmes, mots, phrases ou toute la pensée, c'est un que le bout de ficelle d'un nœud borroméen supporte. Donc, je suis allée voir à la conférence des Genèves, qui m'a beaucoup intéressée, car ça m'a éclairée sur l'essence de ma question, de l'entre-deux entre la parole et l'écrit. Mais aussi parce que dans la même conférence, Lacan répond aux questions qu'on lui pose sur l'écrit. Cette conférence a été annoncée sur les titres Les symptômes et fut prononcée à Genève le 4 octobre 1975 dans le cadre d'un week-end de travail organisé par la Société suisse de psychanalyse. Dans cette conférence, Lacan dit « Écrire n'est pas du tout la même chose, pas du tout pareil que de dire ». Comme je l'illustrerai plus tard, plus loin. Il se trouve que, durant le temps que j'étais à Sainte-Anne, j'ai voulu que quelque chose reste de ce que je disais. Il paraissait à ces moments-là une revue où, à proprement parler, j'écrivais. J'ai fait les recueils d'un certain nombre d'articles parus dans cette revue. Comme j'avais aussi écrit pas mal de choses avant, la moitié de ces recueils est faite de ses écrits intérieurs, qui sont à proprement parler des écrits, d'où mon titre, écrit tout simplement. Ce titre a un peu scandalisé une personne de mes relations qui était une charmante jeune femme japonaise. Il est probable que la résonance du mot écrit n'est pas la même en japonais et en français. Simplement, par écrit, je voulais signaler que c'était en quelque sorte le résidu de mon enseignement. Bien entendu, celle-ci s'est mocassée de toutes les
écrits. Celle-ci, c'est pas la réponse. Hein.
C'est la psychanalyse.
C'est l'IPA.
L'IPA. Oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, je me suis posé la question. Ah oui, qui était celle-ci?
Non, c'est.
Ah oui, d'accord. Bon, alors ouais. L'IPA, bien entendu, celle-ci. C'est moi qui ai cédé tous les écrits. Et après tout, elle a raison, puisque la psychanalyse, c'est tout autre chose que des écrits. Néanmoins, il ne serait peut-être pas mal que l'analyste donne un certain témoignage qu'il sait ce qu'il fait. S'il fait quelque chose, dire, il ne serait peut-être pas excessif d'attendre que de ce qu'il fait, d'une certaine façon, il témoigne. Dans la conférence de Lacan évoque deux mots différents que je mets en opposition, et ces deux mots qui parlent de l'eau qui s'écoule, de l'eau qui coule. C'est le mot sac en anglais et passoire. Sac, S-U-C-K. C'est là, dit Lacan, quelque chose que Joyce, qui est à l'ordre du jour de mes préoccupations pour l'instant, symbolise du mot anglais sac. Sac. C'est les bruits que fait la chasse d'eau au moment où elle est déclenchée et où ça s'engloutit par le trou. C'est une assez bonne métaphore pour la fonction de cet international tel que l'a voulu Freud. Donc, en début des conférences, il parle de ces bruits, les sacs. Et puis, pour la passoire, il va dire autre chose. J'ai très bien vu, dit Lacan, je m'excuse que il y a beaucoup de citations, mais je trouvais que ça parlait mieux que moi. J'ai très bien vu des tout petits enfants, ne serait-ce que les miens, le fait qu'un enfant dise peut-être, pas encore, avant qu'il soit capable de vraiment construire une phrase, prouve qu'il y a en lui quelque chose, une passoire qui se traverse, par où l'eau du langage, encore l'eau, se trouve laisser quelque chose au passage, quelques détritus avec lesquels il va jouer, avec lesquels il faudra bien qu'il se débrouille. C'est ça que lui laisse toute cette activité non réfléchie, des débris auxquels, sur le tard, parce qu'il est prématuré, s'ajouteront les problèmes de ce qui va l'effrayer. Grâce à quoi il va faire la coalescence, pour ainsi dire, de cette réalité sexuelle et du langage. Quand je suis arrivée en France, ça c'est moi, c'est pas là. J'étais travaillée par ce qu'on appelle la psychosomatique, en particulier par les affections de la peau et du cuir chevelu, comme l'eczéma, l'alopécie. Et Lacan, dans la conférence de Genève, répond aux questions qu'on lui pose sur les phénomènes psychosomatiques. Il dit qu'il y a quelque chose de gelé dans la gêne signifiante qui apparaîtra dans une écriture corporelle. Il dit que c'est une sorte de fixation. En 64, il avait déjà parlé de ces phénomènes psychosomatiques et en disant qu'il y a une solidification de la chaîne signifiante, et il appelle ça l'holophrase, pour signaler un manque d'intervalle entre S1 et S2. À l'époque, je me suis mise à comparer ces symptômes avec les tatouages. Toujours avec la même question, pourquoi des signifiants s'écrivent sur le corps, sur la peau? La posant comme celle-là, j'ai donné une certaine direction à la question, du signifiant à la peau. Lacan, il répond aux questions sur, on lui dit, mais qu'est-ce que vous pensez de la psychosomatique? Et il dit, il est certain que c'est dans le domaine le plus encore inexploré. Enfin, c'est tout de même de l'ordre de l'écrit. Et puis plus loin, je ne veux pas vous assommer avec tout ça, il dit, le corps, dans les signifiants, fait prêt. Et prêt qui est un 1. J'ai traduit Einsingersuch, que Freud énonce dans son écrit sur l'identification, par trait unaire. C'est autour du trait unaire que pivote toute la question de l'écrit. Lacan dit Le corps d'un des signifiants fait trait, ce qui donne toute une autre direction à la chose. Ce n'est pas le signifiant fait trait dans le corps, mais le corps fait trait dans le signifiant. Alors, je ne suis pas tout à fait saisie changement de direction, mais j'ai noté qu'il y avait un changement de direction. J'ai comparé cette écriture psychosomatique avec une autre écriture corporelle, celle du tatouage, une écriture volontaire. Parce que dans la psychosomatique, ce n'est pas volontaire. Je vais avoir de l'eczéma. Bon, dans les tatouages, on dit « je vais me faire un tatouage ». Et je vais vous raconter une anecdote qui me semble intéressante pour un peu saisir cet entre-deux de la parole et de l'écrit, où il y a quelque chose que même si le tatouage est fait volontairement, ça échappe. Il y a quelque chose qui s'échappe. Actuellement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une mode où les jeunes se font des tatouages avec des phrases. On écrit des phrases. Avant, on faisait des dessins, maintenant on fait des phrases. Et l'autre jour, quelqu'un m'a raconté qu'elle s'était fait faire un nouveau tatouage, et elle s'était fait écrire une phrase qui avait une valeur symbolique pour elle. C'était une phrase, la phrase c'était « Souviens-toi de toujours oser ». Cette phrase, pour se donner du courage, avait une particularité, elle était écrite en latin. Ses choix correspondaient à une certaine intention de garder une privacité à propos de ce message qu'elle s'adressait à elle-même. Alors, en latin, la phrase donnait ceci. Meminisse vos semper audeat. Énonçant la phrase en latin, en la disant, le semper écrit était devenu semper dit. Semper, ce qui pouvait détourner la phrase en « Souviens-toi d'oser Saint-Père ». Saint-Père était le vif du sujet pour cette personne. Cet exemple me semble révélateur de cet entre-deux de la parole et de l'écrit. C'est que le sujet dit dans le passage à l'écrit, les signifiants, les traits unaires, apparaît à son insu. Dans la conférence de Genève, Lacan parle aussi de la passe. Et ce qui nous fait rappeler pendant le colloque d'Eric Forge. Et dans sa proposition entre la parole, le moment du dire du passant et la nomination, le désir de l'analyste, l'exprimable, pour reprendre un peu ce que nous a dit Paola Nieli lors de ce colloque, l'exprimable de ses désirs doit passer par les tamis des passeurs et du cartel des passes. Ce reste, cet exprimable du désir de l'analyste, est nommé dans l'acte de la nomination. Cette conférence éclaire un peu sur cette fameuse nomination et sa fonction. Lacan propose une passe avec nomination à la fin. Une passe sans nomination, il me semble qu'il n'aurait pas de sens, parce qu'elle viendrait arrêter quelque chose dans les trajets de l'expérience, du dire à l'écrit. Ces deux petites lettres AE peuvent tomber, si on est assis, dans les sens figurés de la gravité, hein, comme l'eau du thé. AE et les deux petites lettres sont les résidus de l'expérience de la passe. Lacan va dire quelque chose sur la base. Il dit, j'essaie de leur expliquer à ceux qui se sont soumis à cette expérience, c'est que leur témoignage nous a apporté, d'une certaine manière, d'entrer dans l'analyse après s'être fait soi-même former par ce qui est exigible. Ce qui est exigible, c'est évidemment d'être passé par cette expérience. Comment la transmettre si on ne s'y est pas soumis soi-même? Enfin bref. C'est quelque chose, plus tard il dit, c'est quelque chose de l'ordre du dénuement, si l'on peut dire. Le dénuement n'est pas la même chose que le dénouement. Alors je suis allée chercher dans les dictionnaires. Alors, le dénuement, c'est l'état d'une personne qui manque du nécessaire. Et le dénouement, c'est une manière de défaire une affaire, de dénouer quelque chose. Le dénuement dans la passe. On peut penser que dans l'expérience de la passe, c'est des cires d'analyste, on l'a, s'il y a nomination, on l'a. On pourrait se les représenter par un plus. Mais il semblerait que c'est pas ça. Que ce désir d'analyste est c'est un manque, un moins. Il me semble que c'est une marque qui résonne dans un manque et qui produit une position ou une certaine manière de se positionner comme analyste. Voilà, j'ai essayé un peu de dire ça.
Bon, merci beaucoup. Tu apportes plusieurs choses. Enfin, il y a d'une part cette incidence clinique enfin, que tu apportes, et sur avec la psychosomatique et puis le tatouage. Et puis cette phrase sur laquelle effectivement tu t'es arrêté, qui est surprenante. Moi, je l'avais pas, je m'étais pas arrêté, je l'ai pas lu comme tel, c'est juste que je l'avais lu comme d'habitude on le lit, c'est-à-dire le corps dans le signifiant fait trait. Et qu'on a plutôt, on le lit normalement, le trait fait signifiant dans le corps, quoi.
Ouais. Oui.
Donc c'est un renversement, quoi, qui est effectivement très étrange, quoi. Très étrange. Alors, est-ce que
je l'ai associé avec un autre renversement?
Oui, oui.
Et que je peux le renverser même en le disant parce que je ne sais pas clair, mais dans quel sens. Mais c'est quand Lacan dit que le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant.
Oui.
Et il ne dit pas que le sujet est représenté par un signifiant pour un autre sujet.
Justement pas, oui.
Voilà, c'est l'inverse.
Oui, oui.
Et je pense que ça résonnait avec ça, avec le fait que c'est le je ne sais pas comment dire là, oui, c'est pas le signifiant qui fait trait dans le corps, mais le corps qui fait trait dans le signifiant.
Oui.
Comme si il y avait, je sais pas, qu'il y avait une incarnation du signifiant. Bon.
Du.
C'est pas trop.
Est-ce qu'il le dit dans le cas particulier du phénomène psychosomatique ou en général?
Non, 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 là c'est là c'est.
Dans la conférence des générales.
C'est C'est, il le dit à propos de, du trait unaire.
Oui.
Donc c'est pas sur le psychosomatique. Alors évidemment, on peut quand même se poser la question et savoir, puisque c'est une transcription, c'est la transcription d'une, oui, d'une conférence, oui, qui a été faite par Mario Cifali, oui, qui l'a envoyé à Jacques Alenvert et qui l'a ensuite publié. Mais donc est-ce que la transcription a été bien faite, est-ce que voilà, ce n'est pas une erreur au niveau de la transcription, c'est pas absolument écarté, mais voilà, c'est fait, c'est écrit, donc c'est quelque chose sur quoi on doit s'arrêter de toute façon. Que le corps, donc, dans le signifiant, fait trait. Quoi. Donc, c'est quelque chose du trait qui a un corps aussi. Le trait a un corps. Et le trait peut. Le corps peut faire trait. Quoi.
Oui.
Le corps peut faire trait. Bon. Mais c'est pas. Parce que cela, il faut le revoir avec d'autres exemples, mais il faut, je pense, garder ça en mémoire pour voir si on retrouve un écho de cela dans d'autres textes, enfin, d'autres passages. Aussi pour la question, tu as parlé le dénuement et le dénouement, hein?
Oui.
Dénouement.
Oui. Dénouement, je dis.
Oui. Et tu l'as fait exprès ou tu...
Non, c'est mon accent.
C'est ton accent. Ah bon,
ça a plus soutenu dans la
langue. Oui. C'est dénouement, pour moi, c'est de faire les nœuds. Donc
oui, c'est
dénouement.
Dénouement.
Dénouement,
c'est
dénouer.
C'est dénouer. Voilà. Hein. Dénouement, c'est dénouer. Dénuement, c'est être nu. Enfin,
oui. Voilà.
C'est ça, dénouement, dénouement. Et alors, c'est un. Tu as eu vraiment le texte
complète.
En entier.
Oui.
Ah, oui.
Bah, je crois, mais c'est pas ça, c'est sur.
Parce que ce jeu de mots un peu qu'il fait, c'est dans un autre passage qui est très très curieux aussi, puisque il évoque la formule de Freud, soll ich werden, hein, à laquelle j'ai plus d'une fois fait un sort, et c'est là il se lance dans une espèce de feu d'artifice de la langue, vraiment entre, et de la langue au sens le plus fort, puisque c'est puisque la langue, déjà, c'est pas, ça contredit l'unicité de la langue, mais c'est à l'intérieur de une langue malgré tout, alors que là il joue de la langue entre les différentes langues, parce qu'il continue werden, bon, en allemand, on sait, ça veut dire devenir. Bon. Alors, Verden, à laquelle j'ai plus d'une fois fait un sort. Verden, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, en même temps, tout le monde le sait, mais voilà, qu'est-ce que cela veut dire? Il est très difficile de le traduire. Donc, il va vers quelque chose. Donc, il va vers quelque chose. Verden. Donc déjà, voilà, il commence à traduire comme ça, vers l'air. Il va vers quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? Ça serait le den. Hein? Ce quelque chose, est-ce le den? Vers den. Donc devenir, c'est que ça va vers quelque chose, ça va vers le den. Et le vers den, est-ce un verdoiement? Donc il joue sur l'homophonie, vers den, verdoiement. Et... qu'y a-t-il dans le devenir allemand? Chaque langue a son génie, et traduire Verden par devenir n'a vraiment de portée que dans ce qu'il y a déjà de den dans le devenir. C'est quelque chose de l'ordre d'un dénuement, si l'on peut dire, le dénuement n'est pas la même chose que le dénouement, hein, mais laissons cela en suspens. Et dans dénuement, il y a le den. Dénouement, pour ça que tu as... Le dénouement, le dénouement, le dénouement. Hein. Et alors là, c'est là où ça devient une jonglerie qui fait miroiter beaucoup de langues, parce que quand il dit le Verdun, et c'est un verdoiement, bon, c'est l'histoire, il renvoie là effectivement aux lectones des stoïciens qui disaient pas l'arbre est vert, mais l'arbre verdoie. Et donc c'est le lectone étant donc, intermédiaire entre la proposition et la chose. Quoi. Donc, c'est un acte, le lectone c'est l'acte de parole qui fait se rapprocher la chose et et la proposition, d'où le terme signifié. Et donc, c'est Verdun, déjà, il fait appel à ça. Et le den, dans le petit livre de Barbara Cassin, qui s'appelle Jacques, pas le fataliste, mais Jacques le sophiste. Pardon ? Jacques le sophiste. Il y a plusieurs chapitres sur le den en grec, qui est le ouden, c'est-à-dire la négation, mais qui est un mot, alors là aussi, utilisé par les Grecs, qui est insignifiant, qui n'a pas de sens en soi. Enfin, ça va, ouden, c'est la négation, mais den seul n'en a pas. Donc, Lacan, là, se lance, il le laisse en suspens, mais on voit qu'il est habité vraiment par ça, quoi. C'est ça. Ça fait partie de vraiment sa façon de penser la langue, quoi. Il est complètement dans la langue interlangue. Enfin, c'est très très étonnant de voir ça, qu'il n'est pas dans la traduction, quoi. Et que donc, la question aussi du trait, le corps, enfin le corps dans le signifiant fait trait, on peut se demander peut-être si justement c'est pas quelque chose qui est à mettre en rapport avec la langue, précisément. Le corps de la langue. Donc c'est un corps qui, dans les limites, sont pas, il n'y a pas de totalité. Et que c'est très, ça renvoie aussi peut-être à la question du dépôt, voilà, de ce qui, le trait qui se précipite, le trait d'écrit qui se précipite. Bon, je ne sais pas, enfin, c'est peut-être quelque chose de cet ordre-là. Quoi.
Et toi, tu avais pensé à dénouement avec verbe.
Oui. Dénouement, oui, dénouement et dénouement avec le den. Dénouement.
Avec le verdoyant.
Et avec le verdoiement.
Verdoiement.
Bien de lire. Bon, écoute, on va. Moi, ce que j'avais préparé pour ce soir, ça sert tout à fait dans ce que tu as présenté. Donc, déjà, ça m'évitera de revenir sur certains points. Et puis, ça va peut-être essayer de donner un peu plus de corps à cette question qui reste quand même énigmatique. Enfin, c'est-à-dire à partir du moment où il y a cette affirmation d'une béance entre l'écrit et la parole, que dire de ce passage de l'analogue, de cet entre-deux, quoi. Qu'est-ce qui se passe là et comment ça se fait entre deux ou l'un par l'autre. Enfin, comment se... Puisque, au fond, ce que tu dis là, c'est ce... Au fond, tu le vois dans un sens et dans un autre. Donc, ça montre bien que...
Il y a un entre-deux.
Qu'il y a un entre-deux, quoi.
Ouais. Alors... Je vais m'asseoir en face.
Quoi? Tu fais quoi?
Je vais écrire.
Ah, tu me laisses tout seul. Bon, ben... Alors le primaire, on ne va pas développer longuement là-dessus, puisqu'on a aussi l'occasion d'en parler à ce séminaire qu'on fait sur l'identification là, certains samedis de l'année. Juste quelques rappels qui viennent dans ce sens-là, quand il dit, par exemple, dans l'objet de la psychanalyse, il dit l'origine du préliminaire, c'est un trou. L'origine, c'est un trou. Ça fait suite au fait que, voilà, le préliminaire, c'est quand on fait un comptage quelconque, on compte des objets, ça peut être n'importe quoi, et on dit il en manque un. Dans un sac à provision, il en manque un, il manque des carottes, il manque quelque chose, voilà. Donc c'est dans le manque un que surgit l'affirmation du trait unaire, un, trait un, il en manque un. Voilà. Donc le un, cet un, c'est toujours, ce que ça désigne, c'est toujours l'objet manquant. Vous voyez, c'est... à partir du manque que Lacan définit le 1. Il le reprend aussi ensuite avec la théorie des ensembles. Mais donc le trait unaire, c'est un trou. Donc il associe vraiment le trait unaire et le trou. Et manquant à quoi? Manquant à désigner le sujet. Parce que précisément, le sujet, il n'y a rien pour le désigner. Il manque toujours quelque chose pour désigner le sujet. Et toujours dans le séminaire d'un objet de la psychanalyse, chaque fois que nous parlons de quelque chose qui s'appelle le sujet, nous en faisons un sujet. Or, ce qu'il s'agit de concevoir, c'est justement ceci, c'est que le nom du sujet est ceci, il manque l'un pour le désigner. Qu'est-ce qu'il remplace? Qu'est-ce qui vient faire fonction de cet un? Assurément plusieurs choses, mais si on ne voit pas que plusieurs choses très différentes, l'objet A d'un côté, par exemple le nom propre de l'autre, remplissent la même fonction, il est bien clair qu'on ne peut rien comprendre, ni à leur distinction, etc., etc. Donc ce qui... en jeu, c'est l'identification, très unaire, l'identification du sujet. Du sujet parce que il manque l'un, et c'est il manque l'un, c'est justement ça qui définit le sujet. Alors, oui, j'avais donc fait cette référence à la passoire sans préciser plus quand tu avais posé la question la fois dernière, et donc tu as citer le passage, je ne vais pas le reciter, c'est assez... ce que tu as dit, enfin je ne vais pas dire que ça soit forcément clair, mais enfin, c'est une... c'est un texte qu'il faut relire, et Lacan convoque la passoire. Alors, je disais Kant, enfin, Kant il parle aussi de passoire, vous savez, mais dans un contexte totalement différent, c'est dans critique de la raison pure, puisqu'il se moque de ceux qui font des réponses interminables et confuses à des questions qui sont elles-mêmes mal posées, et il compare ça donc à traire le bouc pendant que l'autre tend une passoire. Donc ça peut être traduit par passoire, par tamis, par paquet, etc. Mais il y a cette image de passoire là qui revient. L'eau du langage donc passe dans une passoire et ça laisse ses détritus de signifiants. Cette image du ruissellement qui revient très souvent chez Lacan. Je vous rappelle par exemple dans le Litturater qui parle du ruissellement entre les nuages quand il est en avion au-dessus de la plaine de Sibérie. Et il parle de ce bouquet du trait premier de ce qu'il efface, au point du signifiant, donc c'est ruissellement d'entre les nuages. Beaucoup d'autres endroits, il parle et il revient sur la question de l'eau. Donc l'eau dans l'eau du langage, qui ruisselle, qui, et que ça dépose, ça dépose des détritus, alors ils appellent ça de différentes façons, des détritus, des débuts signifiants. C'est... Donc cette passoire serait un peu comme des précipités de lettres, de traits unaires, qui ensuite se retrouvent dans la langue, dans ce langage qui ruisselle. Ce terme de pour détritus, c'est aussi pour l'objet A, il en parle comme ça, détritus. Et donc ce terme de dépôt, on le retrouve dans l'étourdi aussi, page 490. Voilà, c'est la veine. Donc une langue n'a rien de plus qu'à l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé persister. C'est la veine dont le réel, le seul pour le discours analytique, a motivé son issue. Le réel qui n'a pas de rapport sexuel, il a fait dépôt au cours des âges. Ceci dans l'espèce que ce réel introduit à l'un, soit à l'uni du corps qui en prend origine. Donc là, on trouve ce lien entre l'uni du corps. Donc, la troisième, il parle de dépôt encore, d'alluvion, de pétrification. Toujours dans ce rapport entre la langue et l'écrit. Vous voyez, là, on essaye de voir ce rapport entre l'écrit et la langue, quoi. Donc, c'est l'écrit, ce rapport-là, voilà, c'est par la passoire et dans ce dépôt, ce langage qui ruisselle, dépôt de l'écrit, dont la langue, en quelque sorte, porte la trace, en quelque sorte. La langue, ce qui permet que le vœu, c'est pas par hasard, ce soit aussi le vœu de vouloir, le nom, le deux, etc. Ce qu'il faut y concevoir, c'est le dépôt, l'alluvion, la pétrification qui s'en marque du maniement par un groupe de son expérience inconsciente. Donc on retrouve ces mêmes références. La langue, l'écrit, le dépôt, l'alluvion. Alors, l'écrit, puisque les dépôts, ça a à voir avec l'écrit, puisque c'est l'écrit de l'orthographe qui différencie les homophones, par exemple, les homophones de la langue. Il se demande dans. Texte que tu as cité de Genève, là, comment se fait-il qu'il y ait une orthographe? Et dans la troisième, il dit pas de lettres sans la langue. D'accord. Pas de lettres sans la langue. Il n'y a pas de lettres sans de la langue. C'est même le problème, comment est-ce que la langue, ça peut se précipiter dans la lettre? Voilà. Donc la lettre comme précipitation de la langue. On n'a jamais fait rien de bien sérieux sur l'écriture, mais ça vaudrait quand même la peine, enfin, parce que c'est là tout à fait un joint. Donc tous ces homophones, tous ces équivoques, ces homophonies de la langue, effectivement, sont différenciées par l'écrit. Deux, non, etc. C'est dans l'écrit qu'on voit que c'est différent. Alors, si l'écrit est de structure le trait unaire, puisque c'est ça qu'on dit, c'est le pivot, le trait unaire, c'est le pivot de l'écrit, tu l'as rappelé, celui-ci est en effet, c'est la lettre, le trait qui ne se prononce pas, mais qu'on écrit pour différencier les homophones. L'orthographe qui les différencie en est le dépôt, l'alluvion, la pétrification. La métaphore, enfin, si tant est que ce soit une métaphore, enfin, quand même, métaphore de la passoire, donc utilisée par Lacan, pour moi, a fait écho à la métaphore de la flûte. utilisé par Spinoza. Je crois que c'est Kerner, c'est vous qui l'avez cité dans un article, il me semble.
C'est
l'abrégé de grammaire. Hein, c'est dans l'abrégé de grammaire hébraïque où effectivement Spinoza fait cette métaphore que je trouve assez proche de celle de la passoire. Il dit donc la lettre, il oppose la lettre et les voyelles, hein, déjà. La lettre et les voyelles sont les éléments fondamentaux de toute langue. La lettre est le signe d'un mouvement de la bouche, mouvement différent suivant l'origine du son émis. Hein? Par exemple, Aleph indique que le son, Aleph, première lettre, indique que le son entendu a son origine dans le gosier qui s'ouvre. C'est un son d'origine gutturale. Le coup de glotte, bon, tout ça c'est tout perdu. La voyelle est un signe indiquant un son fixe et déterminé. Les voyelles ne sont pas des lettres en hébreu. C'est l'âme des lettres, dit Spinoza. Et les lettres sont. Et les lettres sans voyelles sont des corps sans âme. Et à ce sujet, par exemple, aussi, Lacan, dans le discours qui ne serait pas du semblant, il dit l'écriture n'est jamais depuis ses origines que os dont le langage serait la chair. Donc os, voilà, os, le préliminaire, donc c'est quand même quelque chose du corps, hein, le corps dans le signifiant, quoi. Donc ça a une certaine logique de dire ça comme ça, c'est pas forcément donc une erreur, quoi. Alors, donc ça, elle donne os, l'écriture donne os, donc par le langage, à toutes les jouissances qui, de par le discours, s'avèrent s'ouvrir à l'être parlant. Pour rester à Spinoza, donc là, sa métaphore, c'est celle-ci. Voilà, à la vérité, pour que cette différence donc, entre lettre et voyelle soit plus clairement comprise, on peut très bien l'expliquer en prenant l'exemple de la flûte que les doigts touchent pour jouer. Les voyelles, c'est le son de la musique. Les lettres, ce sont les trous bouchés par les doigts. C'est joli, je trouve. Hein, donc, effectivement, quand il dit la lettre, le pivot de la lettre, c'est le tréhumère, et le tréhumère, c'est un trou. Ben voilà, la lettre, Spinoza était lacanien. Non ?
Hein ? Oui,
sur ce point-là. Sur ce point. Précisé. Voilà. Alors, donc ça. Vous voyez, la lettre. C'est le trou, et donc le son, c'est les voyelles. Donc la lettre, c'est quand même quelque chose qui a plutôt à voir avec le silence et avec le mutisme. D'ailleurs, on parle de lettres à nuit, qui sont tombées. Bon, cette question du mutisme, du silence de la lettre, il y a des tas de formations de l'inconscient qui en parlent. Enfin, par exemple, Freud, quand il dit que le rêve est un rébus ou une écriture hiéroglyphique, et bien, il y a des déterminatifs dans les hiéroglyphes qui ne sont pas, en plus des pictogrammes, qui ne sont pas phonétisés, qui jouent un rôle dans la signification. Dans les caractères chinois, il y a le radical, une clé, hein, qui est associée au signe phonétique. Il y en a 214 clés. Mutisme de la lettre qui se constitue à travers la calligraphie pour l'écriture chinoise, comme permettant donc dans le geste, le rythme, de le, la, tracé, d'atteindre, au-delà du sens phonétisé, d'atteindre une dimension existentielle du sujet, dans son rapport à l'univers. Là-dessus, François Tcheng, vous savez, avec qui Lacan a travaillé, pendant un certain temps, une page très éloquente. Ce n'est pas un hasard si en Chine la calligraphie, qui est l'exacte la beauté visuelle des idéogrammes, est devenue un art majeur. En pratiquant cet art, tout Chinois retrouve le rythme de son être profond et entre en communion avec les éléments. À travers les traits signifiants, ils se livrent tout entier. Leur plein et leur délié, leur rapport contrasté ou équilibrant, lui permettent d'exprimer les multiples aspects de sa sensibilité. Force et tendresse, élan, inquiétude, tension et harmonie, etc., etc. Et bon, si vous voulez, il y a eu toute une évolution de la calligraphie, il y a eu des écoles de calligraphie au cours des siècles, et des lettrés qui ont laissé leur nom comme ayant promu un style de calligraphie particulier. Enfin, donc, c'était vraiment tout un art. Un art auquel, d'ailleurs, comme le dit bien Lacan, comme les Occidentaux veulent s'initier à cet art, ils ont beaucoup de difficultés, comme il le dit, notamment par exemple dans Litturater. Donc toujours, la calligraphie, c'est ce qui lui permet de reprendre la question du trait unaire. Hein. On est toujours dans cette question du trait unaire avec la calligraphie. Justement, c'est l'écrit, le pivot, c'est le trait unaire, et le pivot, je dirais, du trait unaire, c'est la calligraphie, enfin, en exagérant un peu. Hein. Dans Litturater, il parle juste après avoir parlé d'ailleurs du ruissellement. Qui est du trait premier de ce qu'il efface, rature d'aucune trace d'avant, etc. Reproduire cette moitié sans perdre dont le sujet subsiste, tel est l'exploit de la calligraphie. Essayer de faire cette barre horizontale, simplement cette barre horizontale qui se trace de gauche à droite, pour figurer d'un trait l'un unaire comme caractère, parce qu'effectivement en chinois pour dire un, c'est un trait horizontal, voilà. Eh bien, vous mettrez longtemps à trouver de quel appui elle s'attaque, de quel suspens elle s'arrête. À vrai dire, c'est sans espoir pour un occidentais. Ce n'est pas encourageant. Donc, simplement pour écrire le trait, donc le trait 1, le trait unaire, qui est effectivement le trait dit le 1, enfin qui écrit le 1 en chinois. Donc la lettre implique le corps, la calligraphie, ce trait unaire, ça implique tout le corps. Et le lien du sujet à ce qui l'entoure, avec un enjeu de jouissance et de savoir. Parce que là, il parle du virage. Savoir et jouissance. Donc elle a des raisons d'être, pas tant qu'au-delà de la parole, mais aussi nécessaire à celle-ci. Je vais là vous citer quelques passages d'un livre très intéressant qui date déjà un peu, de Daniel Heller Roazen, Écolalie précisément, paru au Seuil en 2007, et toute une ça justement concernant ces rapports de la lettre et de la parole. La parole, notamment dans un de ces. Je vais aller un peu vite parce que sinon je vois que l'heure tourne. il reprend, dans un de ses chapitres, il reprend justement l'histoire de Spinoza. Hein, et à partir de la lettre Aleph, qui reste donc la première lettre de l'alphabet, une lettre prestigieuse, dont il retrace l'histoire de cette lettre, la légende de la Kabbale. Donc c'est cette lettre qui, toutes les lettres avaient été utilisées, et voilà, toutes les lettres, c'est une sorte d'animisme des lettres qui se précipitent pour vanter chacune ses qualités, et que, bon, effectivement, la Bible commence avec la lettre Bara, Bereshit Bara, au commencement Dieu créa, donc Bereshit au commencement, la lettre bête. Bon, et alors la lettre Aleph, pourquoi pas moi, pourquoi est-ce que je ne suis pas la première lettre du commencement, et Aleph, justement, marque le lieu vide où s'initie la parole. Muette, elle veille sur l'oubli qui inaugure tout alphabet. Car c'est la première lettre de la révélation de Dieu, ouverture du décalogue sur le mont Sinaï. Moi, Yahvé, ton Dieu, donc moi, je, Anoki, qui est réduit à Anoki, donc réduit à Aleph. Bon, donc il y a cette lettre, qui occupe une place centrale, mais justement en tant que lieu vide, hein, toujours le tout, la lettre. Donc c'est là où tout ce qui vient concerner la question du trou, du rapport du trou avec la lettre, qui en est le plus proche de sa nature, de sa structure de lettre lunaire. Alors, il y a aussi dans les lettres qui disparaissent, par exemple le E. Hein, le E qui occupe une place à part dans le phonème du français. Il y a 33 phonèmes pour le français, plus 3 sons supplémentaires qui sont menacés et où on voit disparition. Souvent le son de E disparaît comme voyelle, mais la lettre persiste quand même. La lettre persiste, malgré cette tendance à la faire disparaître. Et elle peut être ressuscitée d'une certaine façon dans, si vous allez écouter au théâtre certaines pièces classiques qui sont dites par des acteurs qui prononcent tous les vers pour que on entende bien les alexandrins, effectivement, on entend les E pour que ça fasse bien les 12 syllabes. Donc elles réapparaissent à ce moment-là. Mais ça reste souvent une lettre fantôme qui hante, et vous savez, Perret qui appelait la disparition son roman Sans eux. C'est aussi la marque écrite du féminin. Troisièmement, parmi les lettres qui ne connotent plus un son mais persistent dans l'alphabet, il y a bien sûr aussi le H. Hein? Elle ne persiste pas dans tous les mots, et il y a une tendance à disparaître, déjà dans le latin, puisque le néemo est devenu nemo, par exemple, personne. Néomo, nemo, personne. Et donc il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, de controverses sur cette... ce qui était l'étonnant de la disparition de cette lettre H, au contraire, qui l'étonnant de préserver cette lettre, même si elle n'était pas prononcée. Bon, donc ça a donné lieu à des tas de controverses. Vous savez que Célan la retira aussi de son nom.
Thank you.
Plus en quelque sorte la lettre s'absente du son, hein, plus elle s'absente du son, et plus elle se rapproche de sa vérité de l'être, proprement dit. De l'être comme triunaire, comme un. Et c'est d'ailleurs cela même qui différencie l'humain de l'animal. L'animal parle, mais n'écrit pas. Il n'y a pas ce dépôt dans sa parole. Dépôt de l'un qui s'incarne dans la langue. Et ceux d'entre vous là qui sont en train de lire le séminaire, donc l'identification, vous verrez dans les premières séances, les longs développements que Lacan consacre à sa chienne, Justine, et qui remarque qu'elle n'aimait pas d'occlusive. Et il n'y a pas, par exemple, de paix entre l'implosion et l'explosion. Dans le P, donc, qui fait la. Entre l'implosion et l'explosion de ap et de pas, le P ne s'entend pas. Donc, c'est ce fait de ne pas s'entendre qui la spécifie comme l'être, et comme l'être lunaire. Mais qui différencie l'homme de l'animal, qui lui n'a pas ses exclusives. Alors, peut-être pour terminer, enfin, toujours terminer, on ne sait pas combien de temps ça prend pour terminer. Quelques exemples aussi illustrant cette relation, c'est cette béance de ce qui peut se passer dans ce gouffre, cette béance de la lettre et de la parole, et de comment ça tient malgré tout ensemble, ça se dépose, ça se précipite. Il y a, si on remonte au début mythique, par exemple, vous connaissez tous le mythe de vide de Yo, hein, l'origine de l'écriture, Yo. Yo, qui, donc, c'est à quoi rapporte l'origine de l'écriture, le mythe de Yo. Et donc, des deux lettres de son nom, I et O, c'est la fille d'un roi, enfin je ne sais plus, Inacus, quelque chose comme ça, et qui avait attiré les regards, bien sûr, qui était très belle, et qui avait attiré les regards de Jupiter, et qui était parti donc à sa poursuite, et pour la capturer, avait laisser tomber tout un nuage, des nuages, enfin, autour de la forêt où elle se trouvait, comme ça, pour l'envelopper et pouvoir mieux la rapter, ce qu'il a fait, donc. Mais, bien sûr, il y a Junon qui était toujours à l'affût, et qui s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans cette forêt? Tout d'un coup, des nuages qui sont tombés, c'est pas normal, il doit se passer quelque chose. Et donc, elle convoque Jupiter, et elle commence à lui poser des tas de questions, et Jupiter voit qu'il ne va pas s'en sortir, et pour s'en sortir devant sa jument, il transforme Io en génisse, et une génisse qui était très belle aussi. Quoi. Et bon, mais enfin, elle aurait préféré rester jeune fille, et donc elle se met à errer dans les forêts, et un jour elle se retrouve proche de son père qui la cherche et qui l'appelle, et elle, donc, elle ne parle plus, elle est une génisse, elle ne parle plus, mais elle sait toujours comment elle s'appelle, et donc elle se rapproche de lui, et comme elle essaie de parler, mais c'est des mugissements, rien ne sort, Et c'est à ce moment-là qu'avec son sabot, elle trace les deux lettres de son nom. I-O. I-O. Heureusement qu'elle n'avait pas un nom trop long. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que... Alors, I-O, c'est, si on veut faire comme Lacan, c'est toutes ces associations qui ne se gênent pas pour faire. Vous vous souvenez, entre, qu'on avait vu, la droite infinie, le cercle, et la droite infinie, le cercle qui s'ouvre et qui devient de la droite infinie, ça fait I-O aussi. Mmh,
oui.
Donc, c'est... Bon, mais plus proche de nous, disons, il y a dans la Bible, puisque le livre de Daniel, le livre de Daniel avec le fameux festin de Balthazar et les lettres qui s'inscrivent sur le mur. Vous savez donc Balthazar qui donnait un festin et tout d'un coup il y a une main qui apparaît, une main d'homme, enfin une main humaine, et qui se met à tracer des lettres sur le mur. Et donc il est pris de panique et il veut absolument trouver quelqu'un qui lui interprète ces lettres, parce que donc c'est apparemment des lettres qu'il ne peut pas déchiffrer, quoi. C'est des lettres mais dans une langue qu'il ne connaît pas. Et finalement, donc, il appelle Daniel, qui avait une solide réputation de déchiffreur de rêves, de déchiffreur d'énigmes, mais aussi de dénoueur de nœuds. Hein? Donc, il était dans le dénouement. Et donc, il lui dit, voilà, ces lettres, c'était, donc, ces fameuses lettres, Mene, Mene, Tekel ou Farzim. On prononce un peu différemment, mais enfin bon, méné, méné, tekel, farzim. C'est-à-dire, méné, compter, donc compter, compter, tekel, peser, ou farzim, diviser. Voilà, ces lettres, ça écrivait ça sur le mur. Et Daniel l'interprète, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Donc ça, pour Tekel et Upharsin, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Donc c'est voilà, c'est compter, compter, peser, diviser. Et alors donc Balthazar récompense Daniel, mais la même nuit il est tué et Darius s'empare de son royaume. Alors, on s'est livré à des interprétations de ce Méné, Méné, Tekel, Farzim. Interprétation reposant justement sur le compté, savoir ce qui devait, comment c'était compté, puisque c'est compté deux fois. Hein, compter deux fois, alors compter deux fois peser, compter deux fois par le poids et diviser. Et donc il y a eu des calculs très savants qui ont été faits pour voir quel chiffre ça faisait et donc comment ça pouvait s'appliquer à son royaume, etc. Mais si je cite cet exemple, c'est parce que Lacan le cite à plusieurs reprises. Cet exemple, et dans ces séminaires, par exemple dans le séminaire Le Moi, auquel donc il compare le Méné-Méné à la formule de la trimithylamine dans le rêve de l'injection faite à Irma, hein. Et puis il en parle longuement dans le séminaire La logique du fantasme. Que je vais commencer c'est dans le 23 novembre 66 et donc l'interprétation qu'il en fait, c'est l'interprétation qu'il en fait justement avec une référence au comptage et au comptage, donc avec la question du 1, du plus 1, de la répétition. Donc c'est, vous voyez que cette question-là du plus 1, du coup, bon, le 1 est écrit avec le trait unaire, et là, ce qui devient plus nouveau, c'est vraiment pris du côté du comptage, du côté mathématique du comptage. Donc il parle de la répétition. Hein. La marque est originelle dans la fonction de la répétition. C'est pour ça que la répétition marque. Pardon. C'est pour cela que la répétition s'exerce de ceci que se répète la marque. Mais pour que la marque provoque la répétition cherchée, il faut que sur ce qui est cherché, de ce que la marque marque la première fois, cette marque même s'efface au niveau de ce qu'elle a marqué. La marque ne saurait se redoubler qu'à effacer sur ce qui est à répéter. Bon. Et là, donc, il se met à citer Méné Méné, lesquels ce manque premier qui en découle de la fonction même du compter en tant que tel. Cet 1 en plus. Donc, Lacan prend au sérieux le fait qu'il y a deux fois Méné. Méné Méné. Compter, compter. Donc, compter deux fois. Donc, 1 en plus du compter. Compter 1 en plus. Donc la fonction du compter en tant que tel, c'est 1 en plus qu'on ne peut pas compter. C'est cela qui constitue proprement ce manque-là auquel il s'agit que nous donnions sa fonction logique pour qu'elle assure ce dont il s'agit dans le phares terminal ou pharsim, phares, celui qui fait précisément éclater ce qu'il en est de l'univers du discours, de la bulle, de l'empire en question, de la suffisance de ce qui se ferme dans l'image du tout imaginaire. Voilà exactement par quelle voie se porte l'effet de l'entrée de ce qui structure le discours au poids le plus radical. La lettre dont il s'agit, mais la lettre en tant qu'elle est exclue, qu'elle manque. Donc compter, compter, donc compter un en plus pour que on atteigne la division du tout, de la bulle. Et donc ça, c'est cette fonction, il le relie à la fonction de la répétition. Et il fait même, donc là, un pas de plus, puisqu'il va du coup, il retourne à la question de l'aleph, puisque là, il termine sur la lettre, donc il s'agit si la lettre en tant qu'elle est exclue, en tant qu'elle manque, et bien voilà, la lettre en tant qu'elle manque, elle est exclue, c'est celle de l'aleph, dans la Bible. Donc il reprend à son compte finalement la légende de l'origine de l'Aleph dans la Bible, mais voilà ce qu'il en dit, c'est bien, aussi bien puisqu'aujourd'hui je refais une éruption dans cette tradition juive, sur quoi à vrai dire j'avais tant de choses préparées, et jusqu'à m'être colté à un petit exercice d'apprentissage de lecture masorétique, tout travail qui m'a été en quelque sorte rengainé par le fait que je n'ai point pu faire la thématique que j'avais l'intention de développer autour du nom du Père, donc son séminaire qu'il a interrompu, et qu'aussi bien de tout ceci, il en reste quelque chose, et nommément qu'au niveau de l'histoire de la création, Bereshit bara Elohim commence le livre, c'est-à-dire par un bête. Donc la Bible commence par un bête, pas par Aleph. Il est dit que cette lettre même que nous avons employée aujourd'hui, le grand A, autrement dit l'Aleph, n'était pas à l'origine parmi celles d'où sortit toute la création. Elle est venue après. On lui a donné cette valeur après, donc cette lettre manquante qui assure la consistance même de l'écrit. C'est bien là, il continue, nous indiquer, mais d'une façon en quelque sorte repliée sur elle-même, que c'est pour autant qu'une de ces lettres est absente que les autres fonctionnent, mais que sans doute est-ce dans son manque même que réside toute la fécondité de l'opération. Donc vous voyez, c'est quasiment la même chose que dit Heller Roazen. C'est la fonction du manque de la lettre Aleph qui lui donne cette valeur structurale de, d'assurer de le, la consistance du reste. Vous voyez, la lèvre marque le lieu vide où s'initie la parole muette. Elle veille sur l'oubli qui inaugure tout alphabet.
Mais le Aleph, c'est aussi le nombre 1 en hébreu. C'est ça?
Le
nombre 1 en hébreu.
C'est aussi le nombre 1. Ouais.
Ça équivaut en valeur numérique au 1.
Ah bon. Ça se dit
1.
Les
commentateurs,
non, c'est la valeur.
Non, c'est la valeur numérique, oui, c'est la valeur.
Oui,
mais c'est la valeur numérique du 1.
Mais il y a un mot pour dire 1.
Oui, mais quand par exemple les commentateurs de la Bible écrivent 1, ils l'écrivent avec la lettre Aleph. C'est la valeur numérique pour les commentateurs de la Bible.
Oui.
Je trouve ça par rapport au trainer.
Oui, 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 oui. Ben oui, ça c'est. Ça va dans ce sens-là, oui. Et donc, Lacan, il dit, finalement, il dit que grand A, c'est l'équivalent de Aleph, quoi. Hein. C'est-à-dire la lettre manquante. Alors, dans une autre occurrence, donc, à Daniel, au livre de Daniel, se trouve dans le moi. Et à propos donc de l'injection faite à Irma. Vous savez que dans le rêve, c'est à la fin du rêve qu'apparaît c'est cette formule, c'est-à-dire qu'apparaît que Freud dit que dans son rêve, la formule lui apparaît. Oui, ça, donc là, on est avant la logique du fantasme. Vous voyez, dans la logique du fantasme, Lacan est entré dans le comptage, proprement parlé, et ce lien de la lettre comme lieu vide pour le comptage, le 1 en plus, vous voyez. Là, c'est pas contradictoire, mais c'est antérieur à ces formulations-là. Donc c'est à la fin de ce rêve, vous savez, que ce rêve qui est assez long en plusieurs parties, où il y a tous ses collègues, le docteur M, son ami Otto, l'ami Léopold, etc. Tout le monde est inquiet, on a fait une bêtise, etc. Une objection, bon. Et à la fin du rêve, mon ami Otto... Il lui a fait récemment, donc un jour, une injection avec une préparation de propyl, propylène, acide propionique, triméthylamine, dont je vois la formule devant mes yeux imprimée en caractère gras. Ces injections ne sont pas faciles à faire, il est probable aussi que la seringue n'était pas propre. Et Freud, dans la trompe de tout, n'écrit pas la formule de la triméthylamine. Mais. Lacan le fait dans son séminaire Le Moi. Il le fait à deux reprises où il parle de ce où il commence ce rêve. Alors là, il y a des problèmes d'établissement de texte dont il faudrait qu'on voit, que je ne vais pas résoudre ce soir, mais que je vous signale. Donc dans la version seuil, il y a marqué AZ, CH3. Donc c'est là la formule de la triméthylamine, hein, qui est dérivé de l'ammoniac. Et dans la sténotypie que j'ai consultée, il y a à la place de AZ, c'est dans la version seuil, les deux fois c'est AZ, hein. Mais dans la sténotypie, c'est beaucoup moins clair que ça, et il y a quelque chose d'un peu avec le bouillage, où on peut penser que dans le deuxième cas, c'est bien AZ, mais où le premier cas, c'est, où il écrit la formule, ça ressemble plutôt au N. Ou N qui est la lettre de l'azote. Alors, c'est... Donc AZ, on peut dire AZ, ça vient pour azote. On peut dire comme ça, mais enfin la formule, la lettre chimique de l'azote, c'est N. Et... donc la triméthylamine qui est un dérivé de l'ammoniac et qui donc c'est avec l'azote et ça fait CH3H9N, hein, la formule de la triméthylamine. Non, mais parce que... l'accord, déjà, là, fait des tas de jeux de mots. Mais, bon, c'est un produit de triméthylamine de décomposition du sperme, notamment, et qui, donc, peut lui donner l'odeur ammoniaquée. Alors, oui, il fait un jeu de mots parce que c'est là où il propose cet écrit. Si vous voulez, c'est pas par hasard qu'il y a le N ou le AZ parce que il écrit la chose suivante qui n'est pas bien retranscrite dans la version du seuil qui a été réécrite. Oui, mais... il est facile. Alors, il est facile de s'amuser de ce qui est l'alpha et l'oméga de la chose. Mais même nous l'appellerions l'azote N, que le némo nous servirait quand même encore. Le némo calambrodème pour désigner ce sujet hors du sujet. Voilà, enfin, il joue sur le N pouvant être le némo. Donc c'est en ce sens que c'est assez dommage que dans la version du seuil, il y a disparition du N, parce que justement, il y a ce jeu de mots entre le N, la lettre de l'azote, et le némo pour désigner le sujet hors du sujet, qui désigne précisément toute la structure du rêve, dit-il. Et ce némo sont donc némo, personne, némo, en plus, némo, référence à, bien sûr, à Jules Verne, le Nautilus. Et némo, c'est Outis, le nom d'Ulysse, personne, etc. Voilà, ça c'est pour signaler le problème d'établissement. Comme quoi, si vous voulez, il faut quand on lit les séminaires de Lacan, si, enfin, si on veut vraiment travailler dessus, il faut toujours les lire au moins avec une autre version de la sténotypie. Quoi. Vraiment, ça c'est, je crois, une règle de méthode de lire aussi avec la sténotypie. Avant, on n'avait pas le choix parce que ce n'était pas publié, donc on était obligé de lire forcément les sténotypies quand on allait acheter à droite et à gauche, mais maintenant qu'il y a des publions, on croit qu'on peut faire l'économie des sténotypies, mais ce n'est pas vrai. Et alors, c'est à propos de ce rêve que Lacan donc, compare ce, cette apparition en caractère gras, donc de l'écrit en caractère gras, à l'écrit de Manet-Manet, Tekel, Fares. Il en sort donc, c'est comme si pour Lacan, cette formule d'atrilamine en caractère gras, c'est identique à la formule que voit Balthazar à son festin. Et elle a, à ce titre, elle est la réponse à la question du sens du rêve. C'est-à-dire que la réponse, c'est le mot. Hein, qui désigne l'inconscient décentré de l'ego. Donc c'est quelque chose qui, du sujet justement en tant qu'il est au-delà du moi, qui a eu cette décomposition imaginaire des différentes identifications dans, du moi, dans le rêve, avec tous les personnages, que tout ça s'est plus ou moins dissous, et que, voilà, apparaît cette formule qui est la formule du sujet, comme il dit, là, à l'époque, du sujet acéphale. Le sujet acéphale, il n'y a pas de représentation, c'est le... Et que ça, c'est le... Il n'y a personne pour dire « je ». Au niveau du sujet, il n'y a personne pour dire je, donc ce qui apparaît, c'est cette écriture. Sujet, donc. Donc la notion freudienne de l'inconscience est bien celle d'un sujet acéphale, d'un sujet qui n'a plus d'ego, qui est extrême à l'ego, décentré par rapport à l'ego, qui n'est pas de l'ego. Et pourtant, il est le sujet qui parle. Donc c'est le passage à la relation symbolique, comme se dit à ce moment-là. Hein. Le pouvoir de nommer les objets structure la perception elle-même. Le mot qui nomme, c'est l'identique. Le mot répond non pas à la distinction spatiale de l'objet, mais à sa dimension temporelle. L'objet, un instant constitué comme un semblant de sujet humain, un doute de lui-même, présente quand même une certaine permanence. Cette apparence qui perdure un certain temps n'est strictement reconnaissable que par l'intermédiaire du nom. Le nom et le temps de l'objet. Donc, là est le joint, le surgissement de la dimension du symbolique par rapport à l'imaginaire. Dans le rêve de l'élection avec moi, c'est au moment où le monde du rêveur est plongé dans le chaos imaginaire le plus grand que le discours entre en jeu, le discours comme tel, indépendamment de son sens, puisque c'est un discours insensé. Il apparaît alors que le sujet se décompose et disparaît. Il y a dans ce rêve la reconnaissance du caractère fondamentalement acéphale du sujet, passé une certaine limite. Ce point est désigné par le AZ de la formule de la triméthylamine. C'est là qu'est, à ce moment, le jeu du sujet. Et ce mot ne veut rien dire, triméthylamine, ce mot ne veut rien dire, si ce n'est qu'il est un mot. Et Lacan enchaîne par une prosopopée qui... Et là aussi, il recite encore le némo, l'alpha et l'oméga du sujet acéphale. Donc, il fait résonner toutes ces lettres hébraïques et le némo, etc. Et il se lance dans une prosopopée qui, vous la lirez, c'est dans le moi, qui est vraiment totalement anticipatrice de la longue prosopopée, vous savez, qui se trouve dans la chose freudienne, quand il dit « moi, la vérité, je parle hein. ». Et là, il se lance dans ce truc, où, c'est-à-dire que c'est Lacan lui-même qui se met à la place de Freud, en quelque sorte, dit ce que Freud... ce que Freud dirait s'il pouvait parler. Quoi. Enfin, je suis celui qui va être pardonné d'avoir osé commencer à guérir ses malades. Jusqu'à ce présent, on ne voulait pas comprendre et que ça faisait guérir, etc. Le Créateur est quelqu'un de plus grand que moi. C'est mon inconscience, c'est cette parole qui parle en moi, au-delà de moi. C'est vraiment... moi, la vérité, je parle. Quoi. C'est ça. À mon avis, ça vient de là, puisque la chose freudienne, c'est de novembre 55, et là, c'est le lien du 16 mars 55. Alors, dernier petit... Soit peut-être on peut s'arrêter là, ou hein? Ça va? Bon, bah, écoutez, arrêtons-nous là, encore des petites choses, mais... Deux fois, mais quand même, faut qu'on passe à Marguerite Duras et j'aimerais bien en parler la prochaine fois. Et à propos de Marguerite Duras, je vous signale aussi un livre vraiment très, très intéressant, très, très, très bien, qui est paru dans la même collection au Seuil que celui des Colalix, de Burgelin, et qui s'appelle Les Sans Noms, quelque chose comme ça. Les Sans Noms, c'est pas Les Sans Noms, c'est Les Mal Nommés. Les questions de Duras. Mais pas seulement d'elle, il y a une question de Pérec aussi, et d'autres, les mal nommés. C'est un livre que vraiment je recommande. Burgelin.
C'est Claude Burgelin, c'est ça?
Claude, c'est possible. Juste quand même aussi dans les citations à propos du, parce que tout à l'heure tu as parlé des écrits, effectivement dans le texte de la conférence à Genève, et ça m'a rappelé un autre moment où il parle de ses écrits, qui sont des textes rassemblés, hein, ça il insiste beaucoup là-dessus, dans un au cours d'un discours qu'il a fait à Tokyo en 1971, et il dit que, voilà, pour prendre des métaphores, chacun de ses écrits semble comme les petits rochers que l'on voit dans les jardins zen. Ça représente ça. Moi, j'ai ratissé autour, et puis il s'est trouvé que ce quelque chose se présentait comme un rocher. Un rocher très composite, mais dont la principale chose est que j'avais affaire à énormément de bêtises et d'inertie. Et donc, c'est un certain Rock qui a les plus grandes choses à faire avec le discours. Quelque chose que le discours ratissant peut arriver à cerner. Donc voilà, les écrits, le rocher, le Rock et le discours autour ratisse, comme dans les jardins. Et donc on est toujours dans ce truc, hein, cette question, rapport, le Rock. Alors c'est voilà, c'est ça le nouveau Rock de la castration. Il y a que ce terme... Donc je vous rappelle quand même, est à peine totalement forgé, qui n'est pas de Freud. Hein. Freud n'a jamais parlé de Rock de la castration. Martine d'Henri Saint qui le précise bien. Scherer qui a écrit un article là-dessus.
Et dans ces histoires, le texte décrit, il parle de l'écrit de chiffres.
Dans le texte.
La conférence des Genèves.
Oui.
Il parle de l'écrit des chiffres. Je sais pas si...
L'écrit des chiffres.
Oui.
transmis par le décret lui-même.
Oui.
Si c'est autour du trait lunaire qui pivote toute la question de l'écrit, oui. Que les hiéroglyphes soient égyptiens ou chinois, c'est à cet égard la même chose. C'est toujours d'une configuration du trait qu'il s'agit. Ce n'est pas pour rien que la numération binaire ne s'écrit rien qu'avec le 1, D1 oui. Et D0. La question des traits s'est jugée au niveau des quels. Ça. Ah non, mais je me suis trompée. Non, c'est pas ça. Je parle des numérations. Ah oui, c'est ça. C'est avant. Il est certain qu'il y a en effet une léance tout à fait frappante. Comment est-ce qu'il y a un orthographe?
Oui.
C'est la chose la plus stupéfiante du monde. Et qu'en plus ce soit manifestement par l'écrit que la parole fasse à toi. Par l'écrit et uniquement par l'écrit. L'écrit de ce qu'on appelle les chiffres. Parce que on ne veut pas parler des nombres. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre de ce que l'on posait tout à l'heure comme question, de l'ordre de la immanence. Là, il va parler de, du trait unaire. Donc, il y a l'écrit, c'est l'écriture des chiffres.
Oui, oui.
Donc, les 1, le trait unaire.
Oui.
C'est ça?
Oui, oui, oui. Oui, le choix même du terme unaire,
oui,
parce qu'avant, on avait vu avant, il parle du trait unique. Quand il reprend de Freud, il appelle ça d'abord le trait unique pendant longtemps. Quoi. Et c'est à un certain moment, donc, l'identification seulement qu'il appelle ça le trait unaire. Et c'est clairement pour marquer que là, il prend dans son acception. Voilà, mathématiques, de nombre.
Oui, il faut travailler.
Bon, ben c'est la prochaine fois, c'est le mois de janvier.
Oui.
Le 11. Le 8 janvier. Hein. Mardi aussi. Hein. Mardi 8 janvier. Comment? Oui, oui.
C'est un jour, c'est sûr que les autres.